Olivier Besson, prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel, Afrique Midi, avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. On va essayer de vous donner la parole sur tous les sujets qui vous intéressent. On n'a que 20 minutes, donc forcément, certains d'entre vous seront frustrés, mais voilà, merci en tout cas de votre confiance. On va parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez été nombreux tout au long de la semaine à nous contacter pour souhaiter prolonger le débat sur la publication de la liste électorale définitive, liste qui ne sera pas révisée avant l'élection présidentielle du mois d'octobre, liste sur laquelle ne figurent pas l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ex-premier ministre Guillaume Soro, l'ex-ministre Charles Blégoudé et Tidjane Thiam, qui est présenté comme le principal rival du parti au pouvoir. Tous sont donc inéligibles. Bonjour Eric.
Bonjour Juan.
Vous faites partie des nombreux auditeurs qui souhaitent prendre la parole sur ce sujet. Vous Eric, à Abidjan, vous regrettez déjà que cette liste ne puisse pas être révisée avant le scrutin?
Bah oui, en fait, on en sait très bien que toutes les années avant les élections, il y a une RLE. Et c'est normalement une contrainte légale pour la CEI de faire une révision tous les ans. Et malheureusement, cette année, on comprend bien que soit il n'y aura pas de révision, soit il y aura une révision après les élections, ce qui est un peu ubuesque.
Ouais, en même temps, vous avez certainement entendu le président de la commission électorale, il a été clair, il a dit que les délais étaient trop courts. On est à 5 mois de la présidentielle. S'il fallait lancer des opérations de révision, cela nécessiterait entre 6 et 7 mois, a-t-il dit. Donc on est hors calendrier constitutionnel si on se lançait dans des opérations de révision.
Non, le président de la CEI n'est pas consistant. En fait, il a mené une RLE en juin 2020, avant l'élection précédente, et ça n'a posé aucun problème apparemment.
C'est-à-dire que aujourd'hui, si en 2020 on a pu réviser l'élection 4 mois avant la présidentielle, en 2025 on devrait pouvoir faire la même chose, c'est ce que vous dites?
Selon toute logique, oui.
Ouais. Alors du coup, s'il ne le fait pas, comment vous l'expliquez?
Le président de la CEI s'est fendu d'une sortie assez inique il y a quelques mois, maintenant en avril, pour dire qu'il ne ferait pas de RLE avant les élections et plutôt après, que ce n'était pas de la malice. On a cru effectivement que ce n'était pas de la malice et que c'était juste de l'incompétence, mais force est de constater que quand on voit la suite des événements, on comprend que c'était quelque chose de calculé finalement, afin d'éliminer au moins un des candidats, celui que vous avez cité comme le principal rival du parti au pouvoir.
Bah vous pouvez le nommer vous-même, Tidjane Thiam.
Tidjane Thiam.
Bon, ne raccrochez pas Eric. Cassie souhaite également prendre la parole. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Dans quel état d'esprit êtes-vous après la publication de la liste électorale définitive dans votre pays?
Dans mon pays, je suis dans un état d'esprit satisfaisant et je crois à la CEI qui est effectivement une institution indépendante qui fait son travail comme il se doit. Elle a commencé un processus depuis 2024. Pour moi, les règles ont été respectées et tous les Ivoiriens qui s'intéressaient donc à la vie politique de la Côte d'Ivoire à ce moment-là ont pris leur disposition pour procéder à leur inscription sur la liste. Alors que si il y a des opposants qui estiment que la révision devrait être reprise pour une question personnelle, il faudrait en amont qu'ils règlent leurs problèmes avec la justice.
Donc pour vous, si on ne révise pas la liste électorale, ça n'a rien à voir avec Tidjane Thiam. Parce qu'effectivement, si la liste était révisée à l'heure actuelle, comme Tidjane Thiam a récupéré sa nationalité ivoirienne, il pourrait donc de nouveau s'inscrire sur la liste et pour le coup, il serait éligible et il pourrait briguer la magistrature suprême au mois d'octobre.
Non, il n'y a pas de disposition particulière prise par la CEI par rapport à un individu. Non, la CEI est dans un processus. Je ne suis certes pas le porte-parole de la CEI, mais je suis actrice politique sur le territoire. Je vis quand même l'histoire de mon pays.
Oui.
Et donc, il est fait dans le code électoral, obligation à la CEI de procéder à une révision de la liste électorale chaque année, mais à aucun moment il ne leur a imposé de le faire avant une élection ou après une
évidemment,
élection.
Évidemment,
voilà,
ce n'est pas stipulé, mais mettez-vous à la place des électeurs qui souhaiteraient une révision de la liste, soit pour pouvoir figurer sur la liste et voter. Ils se disent, pourquoi on ne révise pas la liste avant le scrutin? Quel est l'intérêt de réviser la liste électorale après l'élection présidentielle? Merci Cassie de votre réaction. Je vous libère parce que vous nous disiez je veux passer à l'antenne, mais je dois rentrer à la mosquée le plus vite possible. C'est vrai que c'est la Tabaski aujourd'hui. Eric, vous souhaitiez reprendre la parole très vite ?
Oui, en fait, juste pour répondre à Cassie, on sait très bien comment ça se passe. Elle se dit actrice de la politique. Une RLE, ça demande de présenter un certain nombre de documents. On sait que l'administration est telle qu'elle est dans notre pays. Beaucoup de personnes ont souhaité le faire et n'ont pas pu pour des raisons tout simplement de disponibilité des documents administratifs nécessaires.
Oui, mais en même
et
temps,
ce serait bien et ça ferait du sens de pouvoir le faire.
En même temps, Cassie,
voter.
J'entendais les arguments de Cassie et j'entends les vôtres. Eric, quelqu'un qui souhaite impérativement participer à l'élection présidentielle, ne serait-ce qu'en tant qu'électeur, prend ses dispositions en amont. Et d'ailleurs, la période d'enrôlement a même été prolongée par les autorités, car oui, il y a eu un certain engouement pour s'inscrire sur les listes électorales. Ne raccrochez pas, Eric, je vous le disais, il y a du monde sur ce sujet. Claude, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, Claude, vous êtes à Abidjan et visiblement, vous êtes assez remonté. Vous êtes plutôt en colère après avoir découvert la liste définitive.
Effectivement, je suis vraiment remonté parce que depuis 1995, je suis électeur. Je vote dans une commune à Port-Boué et là, avec la publication de la liste électorale, la première liste électorale qui a été publiée, je me suis retrouvé dans une commune que je ne connais pas du tout, au plateau.
Au plateau.
Disant que j'habite au plateau.
C'est-à-dire que je ne connais pas jusqu'à présent. Alors attendez que je comprenne bien. Jusqu'à présent, vous viviez dans la commune de Port-Boué, donc vous étiez enregistré à Port-Boué, c'est cela ?
Effectivement, voilà.
Et donc là, vous vous êtes retrouvé à devoir voter dans la commune du plateau.
Dans la commune du plateau, sans demande, je n'ai fait aucune demande. Mmh. Je me retrouve au plateau. Je vais faire des réclamations. On me dit qu'on va me ramener dans ma commune habituelle. Et là, on ne me ramène pas dans la commune. Et cette liste encore qui me sort, je suis encore au plateau. Et là, comme je le dis, c'est méchant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à perpétuer la liste de cette manière.
Et à votre avis,
c'était à dessein, quoi.
À dessein, pourquoi ? Expliquez-moi. Expliquez-moi,
bon,
Claude.
D'abord la commune de Port-Boué, c'est une commune qu'on regarde, c'est une commune qui est favorable au PDCI.
Oui, ça c'est. Elle est connue, voilà, effectivement pour être favorable au PDCI RDA.
Déplacer les électeurs, il faut les mettre par-ci, par-là, pour ne pas que, par exemple, au niveau des législatives, certainement, que ces électeurs aillent voter pour un candidat PDCI pour passer. Ouais. C'est fait un dessin. Pourquoi tu peux tuer la liste ? Pourquoi ? J'ai jamais demandé à partir quelque part.
Et donc maintenant vous êtes obligé de voter au plateau ?
Oui, mais je suis obligé d'aller voter au plateau. Bon. Alors que je connais même pas la commune.
Bon, en tout cas, elle n'est pas très loin de Port-Boué, mais tout de même, effectivement, ça pose question. Merci de ce témoignage, Claude. Et merci à vous, Eric, et à tous ceux qui nous ont contactés pour parler de la Côte d'Ivoire. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir très, très vite. Le temps est passé. Il est déjà 8h48 en temps universel. J'ai reçu un petit message sur les réseaux sociaux d'un enseignant du Niger qui m'interpelle directement en disant « Monsieur Gomez, vous avez consacré une émission récemment à la grève des enseignants en Côte d'Ivoire et vous ne parlez pas de la grève des enseignants au Niger. » Eh bien voilà, c'est fait. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Monsieur Gomez et bonjour à toute votre équipe.
Vous avez bien fait de m'interpeller sur les réseaux sociaux. On vous a contacté, rappelé. Vous êtes enseignant vous-même, Ibrahim. Vous êtes pour la troisième fois en un mois en grève, comme la quasi-totalité des enseignants du service public. Expliquez-nous ce mouvement,
oui,
cette
merci,
colère,
merci,
cette
merci,
grogne.
Merci Monsieur Gomez de m'avoir donné la parole afin d'exprimer nos doléances sur votre zone.
Allez-y, expliquez-nous.
Au Niger, depuis près d'un mois, le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle est paralysé. Les écoles publiques sont fermées suite à des grèves répétitives des enseignants.
Êtes-vous en grève ? Expliquez-moi, Ibrahim.
Oui, les points inscrits sur notre plateforme revendicative sont les suivants. 1. Nous demandons au gouvernement le recrutement de tous les enseignants contractuels à la fonction publique. 2. Nous demandons encore le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels. Car à l'heure où je vous parle, les enseignants contractuels ne sont pas encore payés.
Donc il y a des arriérés de salaire.
Les pécules même du mois de mai passé. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, aucun enseignant contractuel n'a perçu son pécule.
D'accord.
Et nous avons encore demandé au gouvernement le rappel sur salaire et autres incidences.
Ouais. Et pour l'instant, où en sont les discussions avec le gouvernement ?
Le gouvernement refuse même de nous recevoir. La fois dernière, le collectif des syndicats avait demandé une audience. Le gouvernement a refusé. Nous avons encore demandé un sitting. Ils ont tout refusé. Donc nous avons compris que l'éducation n'est pas inscrite sur leur agenda. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de partir en grève.
Grève.
Et après ces quatre semaines de... grève, la semaine prochaine, du lundi 9 jusqu'au vendredi 13, il y a déjà un préavis qui a été lancé.
Ah oui, donc la grève risque de s'éterniser, ça ne vous a pas échappé, Ibrahim, évidemment, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, qu'on s'approche de la période des examens.
La situation ne fait que, pour l'instant, la situation ne fait que se compliquer davantage parce que le gouvernement fait la sourde oreille. Il refuse de nous recevoir.
Donc vous serez en grève au moment des examens, alors ?
On souhaite même boycotter ces examens.
Ah oui.
Ça va arriver à un moment.
Mais que dites-vous, que dites-vous aux lycéens qui nous écoutent peut-être en ce moment, ou aux parents d'élèves qui vous écoutent ?
Oui, mais les parents d'élèves devraient aussi intervenir pour attirer l'attention du gouvernement, parce que ce sont les enfants du pauvre qui sont en train de souffrir. Les écoles publiques sont fermées aujourd'hui, les écoles privées marchent bien. Donc vraiment, les enfants des pauvres qui sont en train de souffrir.
Ibrahim, merci en tout cas de nous avoir interpellés. Merci de ce témoignage. Bon courage pour la mobilisation. Tenez-nous au courant. Alors oui, je reconnais, on n'a pas fait une émission et un débat consacré au mouvement de grogne des enseignants du Niger. Mais voilà, vous avez pu en profiter dans la Libre Antenne pour nous expliquer vos difficultés. Il est 10h51 à Paris. Zomati Mati, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez. Merci pour l'opportunité.
Ben c'est normal, on est là pour ça. On est ouvert tous les matins. On donne la parole aux auditeurs. Vous nous écoutez à Washington et vous réagissez à la disparition du rappeur togolais Amron. On en parlait tout à l'heure en fin de première partie avec Jessica Taïeb dans sa chronique Un œil sur les réseaux. Il a été arrêté il y a maintenant quasiment 2 semaines. Hein. C'est un artiste engagé pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un artiste très actif sur les réseaux sociaux, très critique également envers le pouvoir togolais et vous souhaitiez justement nous interpeller sur cette arrestation.
Effectivement, M. Juan Gomez, je vois que bon, on assiste encore à une fois à une arrestation arbitraire au Togo. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un rappeur engagé que le peuple aime beaucoup, qui dénonce un peu les exactions au Togo par rapport à la Ve République et la situation économique du pays. Donc, l'arrestation vraiment a mis la jeunesse en colère. Donc, on veut interpeller toute la communauté internationale,
oui. D'avoir
un regard sur ce qui se passe au Togo.
Est-ce que vous êtes surpris par cette forte mobilisation sur les réseaux sociaux ? On voit effectivement énormément de jeunes Togolais du Togo et de la diaspora qui réagissent. On voit une partie de la classe politique, l'opposition évidemment, une partie de la société civile également exiger la libération d'Amron. Car à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, nous ne savons pas où il se trouve. Il n'y a pas eu de communication officielle.
Effectivement, c'est si déplorable, M. Juan Gomez. Nous comparons Amron comme ce jeune maghrébin qui s'est sacrifié, qui s'est immolé au printemps arabe. Donc, nous ne sommes pas étonnés parce que la jeunesse togolaise a ras le bol, M. Juan Gomez.
Et de là à interpeller directement Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ?
Oh my God, effectivement, ça c'est une très bonne idée parce que...
Vous alliez dire oh my God, non ?
Effectivement, ouais.
Oui. je rappelle que vous êtes à Washington, donc il y a le naturel qui prend le dessus, donc allez-y, oui.
Effectivement, je prédicateur. C'est si normal que nous interpellons Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a une relation étroite avec le régime de Lomé II. Donc c'est normal que Macron décide de faire quelque chose dans cette histoire.
Bon. En tout cas, merci à vous de nous écouter, de votre confiance et de nous avoir interpellés sur le sort du rappeur togolais Amron. Bonjour Mamadou.
Bonjour M. Juan Gomez. Depuis 1996 jusqu'à présent, c'est le même courage, même énergie.
Vous parlez de qui ? De moi ou de vous ?
Je parle de vous. Ah. Depuis 1996, à partir de l'actualité jusqu'à présent.
Oui, bah c'est vrai que
bravo
c'est...
Bravo à vous et toute l'équipe.
Ah bah merci de vos encouragements, de votre fidélité. Ça me va droit au cœur. Je suis en train de rougir, Mamadou. Et merci à vous, surtout, de votre confiance, Mamadou. Vous êtes au Mali, vous êtes à Tombouctou, et vous nous avez envoyé un message sur les réseaux sociaux pour témoigner dans la Libre Antenne de la situation dans votre ville, puisque Tombouctou a été la cible de plusieurs attaques simultanées en début de semaine, revendiquées par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ont été visés, je le rappelle, le camp militaire, l'aéroport, plusieurs postes de contrôle. Et vous-même, au moment de l'attaque, vous êtes enseignant, vous étiez à l'école avec les enfants, c'est ça ?
Évidemment, j'étais à l'école, M. Juan Gomez, aux environs de 9h du matin. 9h. Ça a trouvé que les épreuves ont déjà débuté. Hein. Voilà, donc il y a eu des tirs nourris par-ci, par-là. Les enfants étaient paniqués. C'était la psychose généralisée, en réalité. Hein. Voilà, les gens sortaient de toutes les ruelles. Là. Il y avait des tirs hein, jusqu'aux environs de 11h. Les gens ne comprenaient rien, en réalité.
Ouais.
M. Gomez.
Ouais. Et
quand... les enfants étaient en plein examen. Hein. Le diplôme d'études fondamentales qui conclut pour avoir un diplôme, là. Ça, c'est le niveau fondamental.
Mmh. Ouais. Et donc, c'était la panique généralisée donc à Tombouctou. Aujourd'hui, 4 jours après, dans quel état d'esprit êtes-vous, Mamadou ?
Voilà, une population... Moi, particulièrement, je suis vraiment dans un état vraiment très critique, hein, parce que ça ne va pas. La population, elle a vraiment laissé à elle-même, en réalité. Hein. Oui.
C'est-à-dire que laisser à elle-même, ça signifie que vous avez l'impression que l'armée ne fait pas son travail, ne vous sécurise pas davantage ?
Oui, nous avons l'impression que nous sommes retournés à la case de départ en 2012-13 où le Nord était occupé, c'est le djihadiste.
Ouais. Oui. En 2012, effectivement, Tombouctou avait été contrôlé pendant plusieurs mois par les djihadistes.
Évidemment, les gens ne comprennent absolument rien. Hein. La ville était vraiment dans un trou, en réalité.
Ouais.
Et jusqu'à présent, il y a un couvre-feu qui est instauré de 21h à 6h du matin. Alors, les gens qui travaillent la restauration, voilà, les soudeurs, les tailleurs, tout ferme depuis 21h et quelques. Vous voyez ce que ça fait ?
Ouais, depuis les dernières... Effectivement, depuis l'attaque de cette semaine, le couvre-feu a été renforcé. Il était de mémoire de 23h à 6h et désormais, il est de 21h à 6h du matin, ce qui pénalise un certain nombre d'habitants et les activités, forcément. Vous vivez dans la psychose, Mamadou ?
Évidemment, toute la population vit dans la psychose, mais la population a peur de le dire, Juan Gomez. Parce que sans sécurité, la population ne peut pas vaguer à ses occupations.
Mmh.
Et alors, vous voyez ce que ça fait.
Merci Alpha de ce témoignage, de ce courage, prendre la parole et voilà, Mamadou, pardon, et d'avoir pris la parole, de témoigner en direct sur RFI. Il nous reste 3 minutes. Alpha, il est là, il arrive. Bonjour Alpha.
Oui, bonjour Juan Gomez et bienvenue au village.
Au village, vous êtes où exactement ?
Je suis à Dalin.
D'accord.
À quelques 27 kilomètres de la baie.
D'accord, de la baie, très très bien. En tout
oui.
cas, aujourd'hui
ouais.
c'est jour de fête en Guinée. On a entendu tout à l'heure le reportage de notre correspondant Tanguy Billan en Guinée, à Conakry, la fête de la Tabaski. Et vous souhaitiez profiter de la Libre Antenne justement pour nous parler des opportunités de développement qu'offre cette fête dans votre pays et en l'occurrence dans votre village.
Oui, bien sûr. De plus en plus, nous avons constaté que les gens se déplacent massivement de la capitale, des centres-villes, pour venir dans les villages faire la fête. Et nous avons saisi cette occasion, nous les jeunes, nous sommes retrouvés autour d'une structure que nous avons appelée les natifs de Dalin. Et nous avons décidé de nous organiser, de conjuguer fête de Tabaski et développement local dans 3 domaines clairement identifiés. La protection de l'environnement,
oui.
la santé et l'éducation.
Et concrètement ? Comment ça se passe alors ?
Ça se passe, on confectionne des t-shirts, des pulls, des casquettes à quelques jours de la fête,
oui.
qu'on revend à un prix très abordable, et plus quelques activités culturelles et sportives. Tout l'argent obtenu de ces différentes actions-là sera entièrement versé pour le financement de la construction d'un poste de santé dans une localité choisie.
D'accord. Et l'année dernière, par exemple, vous avez pu récolter suffisamment d'argent ?
Oui, bien entendu. L'année dernière, nous étions dans une localité qu'on appelle Sarekali, où nous avons pu rénover une école de 3 salles de classe.
Mmh.
Et pour cette année aussi, nous sommes dans une autre localité que nous appelons Madina Kansangi, où nous allons faire la pose de la première pierre ce dimanche-là pour la construction d'un poste de santé.
Ben voilà, un beau projet, merci. C'est bien de profiter de la fête de la Tabaski, du fait que tout le monde revienne au village pour essayer de récupérer des fonds ici et là et financer de belles actions comme voilà, la restauration de cette école ou peut-être l'ouverture prochaine d'un dispensaire. Merci à vous et bonne fête de la Tabaski Alpha. Merci à vous tous de votre fidélité, de l'intérêt que vous portez à cette émission. On sera de retour lundi, 8h10 temps universel. Vos questions questions à la rédaction et notre débat du jour qui sera consacré à la décision de Trump d'interdire aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis. Décision qui entrera en vigueur lundi.
Crédit immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous a proposé appel sur l'actualité.